3, 2, 1.
Bonsoir, il est 18h, c'est Last Ride avec Doc Olivier. C'est parti. Bonsoir à tous et bienvenue dans Last Ride numéro 16. On commence tout de suite avec le Pretty Maids Future World, extrait du Maids in Japan. Last Ride avec Doc Olivier. extrait de l'excellent live Made in Japan, avec un clin d'œil bien sûr au Deep Purple. Franchement, excellent ce Pretty Made. Mettez-y une oreille, on joue, Pretty Made rejoue tout l'album Future World, c'est vraiment du très 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 bon. Voilà, on aura d'autres morceaux parce que c'est notre album fil conducteur du jour. On revient tout de suite à la semaine dernière où on avait fait un spécial Dio. J'avais oublié de mettre Main on the Silver Mountain, donc on se rattrape tout de suite ce soir avec Rainbow, Main on the Silver Mountain. Voilà, vous écoutez Last Ride numéro 16 avec le Doc Olivier. On a réécouté Rainbow avec Dio, parce que la semaine dernière, on avait loupé ce morceau. Franchement, c'est une honte. Voilà, on va tout de suite écouter une nouveauté, ça s'appelle PPMD. C'est une reprise, Toy in the Attic, et je vous laisse découvrir qui se cache derrière PBMB. C'est parti. We'll be right back. Voilà, c'était Toys in the Attic par BPMD, le nouveau projet donc de Bobby Blouts, Ellsworth, avec Mike Portnoy, le bassiste Mark Mengi et le guitariste Phil Demel. L'album sortira le 12 juin via Napalm Records et c'est que des reprises, c'est hyper bien, c'est à écouter. On va tout de suite écouter un groupe français qui s'appelle Hot Hell Room. L'album s'appelle Stasis, c'est sorti fin février. Le morceau s'appelle Final Choice et je pense que le groupe sera en interview la semaine prochaine. Voilà, donc écoutez, posez une oreille sur ce groupe. Cet album est fantastique. Le nom du groupe s'appelle Hot Hell Room et le morceau s'appelle Final Choice. Voilà, c'était le groupe parisien Hot Hell Room. L'album s'appelle Stasis et le morceau qu'on a écouté, c'est Final Choice. Je pense qu'on les aura la semaine prochaine en interview. Mon prochain invité qui va arriver est Bruno Joseph Alphonse, qui est l'auteur de L'ère du métal, tome 1. On va certainement parler du tome 1 et du tome 2. Il sera en ligne avec nous dans quelques instants, mais on continue tout de suite avec le Cowboy Song des Bad Name. C'était le Cowboy Song des Bad Name. Franchement, cet album est à découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. L'album s'appelle Are You Ready For Me? Le groupe, c'est Bad Name. Bon, allons retrouver tout de suite maintenant mon invité, qui est Bruno Joseph Alphonse, l'auteur de L'ère de métal. L'ère du métal, pardon, le tome 1. Alors, j'espère qu'il y aura un tome 2, on va lui poser la question. Bruno, es-tu avec nous?
Je suis là, Olivier. Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation pour parler un petit peu de ton livre. Et puis, comme je suis quelqu'un qui est un petit peu feignant, je t'ai fait participer un petit peu à l'émission parce que je t'ai demandé deux titres. Et les deux titres ont été axés sur l'année 1984. Alors, on va en parler juste après. Mais ma première question, en fait, elle est purement pour l'auteur et amateur de grande musique que je connais à travers toi. Comment as-tu ressenti la sortie de l'ère du métal, le tome 1? Ça va faire 2 ans maintenant qu'il est en vente sur Camion Blanc. Quels sont les retours que tu as eus et comment as-tu vécu l'écriture d'un aussi gros pavé que ce tome 1, qui est quand même quelque chose de monstrueux? Pour avoir commencé à le lire, je ne l'ai pas encore fini.
Et oui, c'est un projet global avec le tome 2. Qui va sortir incessamment sous peu, c'est-à-dire peut-être même je serai prévenu quelques jours avant, mais je sais que c'est soit au début du mois de juin, soit au début du mois de juillet à venir, donc ça va arriver très très vite. Au début du mois de mai, pardon, On est quoi là? On est en mai là. Hein.
On termine le mois de mai. On tente.
On est en mai. Donc ça sera bien ça. Ça sera début juin ou début juillet.
D'accord.
Avec sans doute peut-être même dès dans les prochains jours le second qui sera disponible. Donc le projet était global effectivement. J'étais parti sur une histoire en fait à raconter. J'avais envie de raconter cette que je considère comme l'âge d'or un peu de la musique métal, c'est-à-dire les années 80 au sens large, en débordant largement sur les années 90 et encore plus largement sur les années précédentes bien sûr, sur l'origine de ce genre musical ou de ces genres musicaux. D'accord. Et puis toute l'évolution dans les années 70. Et puis voilà, l'écriture aidant, le plan c'est monstrueux, l'envie de brasser plein de choses différentes entre le côté un peu biographique, le fond du livre effectivement, c'est un gros pavé. Pourquoi ? Parce que c'est le récit année par année, mois par mois de l'actualité du hard rock et du métal au sens large, avec un prisme on va dire plus mélodique sur toutes les musiques qu'on a appelé RDFM, Aware également, et puis après le glam et compagnie, Sleaze et autres. Donc voilà, donc il y a un peu un focus sur cette veine musicale, mais dans un ensemble plus général autour de la musique hard rock et heavy metal, avec donc évidemment le thrash metal, des choses encore plus agressives et autres. Et puis voilà, donc drainer tout ça avec une partie biographique sur des groupes phares, avec aussi une partie thématique sur plein de sujets qui me paraissaient intéressants d'aborder. Étudier pourquoi c'est devenu si populaire, pourquoi c'est quelle a été l'importance de la chaîne MTV par exemple dans l'émergence de toute cette vague, cette mode.
Oui, oui.
Et puis voilà, puis effectivement c'est toujours intéressant de voir comment ça émerge, comment ça gravit les échelons un par un, et puis après c'est aussi intéressant de voir comment ça dégringole, quoi. Donc ça sera pour le tome 2. même s'il y a largement là, effectivement le tome 2 couvre les années 1989-1994. Voilà, on est quand même bien tranquille, bien au chaud dans la popularité jusqu'en 92-93. Quoi. C'est plutôt après que ça se gâte. Donc il y a quand même une grosse part du tome 2 qui fera aussi plaisir aux fans du hard mélodique, on va dire, et du hard rock en général.
D'accord.
Par justement donc, le récit de beaucoup de succès, beaucoup de surtout de grands disques, comme cette année 84, dont effectivement tu m'avais sollicité pour avoir une année à mettre en avant. Et oui. L'année 84, c'est l'année super super importante dans la décennie des années 80 pour à la fois on va dire les valeurs établies qui continuent leur route. On va parler de Scorpion, Judas Priest, Kiss, Van Halen,
oui,
et aussi Whitesnake qui finissait sa période anglaise, on va dire le retour de Deep Purple et autres. Et puis voilà, puis l'émergence, la dynamique qui était enclenchée pour des groupes comme Metallica, comme Europe aussi un petit peu, au niveau européen, Dokken, et puis surtout plein de premiers albums, quoi, même s'il y avait eu des EP avant ou des choses plus confidentielles. Premier album de Bon Jovi, c'est pas rien quand même. Premier album de Rat, de Striper, de Wasp, de Malmsteen, d'Anthrax. Et donc, peut-être que la transition va être là. Pour le premier extrait que je t'ai proposé.
Oui. Eh ben, il y a effectivement, alors 84, effectivement, c'est quand même une année qui est quand même, on va pas dire là une des années charnières, mais qui est quand même une année très très importante pour un paquet de groupes. Entre ceux qui sont revenus sur cette année-là, tu parlais de Deep Purple par exemple, mais aussi ceux qui ont sorti un premier album, voire un deuxième album phénoménal. On parle de, par exemple, on va parler d'Autographe, on va parler de Pretty Maids, on va parler sur d'autres approches de Mercyful Fate par exemple, qui a sorti aussi des albums.
Un
album en 84. Voilà, y a, cette année elle est charnière, je pense aussi parce que c'est une année où il y a des premières choses qui sortent et qui seront qui dureront dans le long terme. Et puis il y a aussi toute une partie de groupes sur le retour, comme Deep Purple, c'était quand même le Perfect Stranger. Il est quand même incroyablement sur le retour. Et il n'y a rien acheté pratiquement sur tous ces albums qu'on écoute encore aujourd'hui. Il y a pratiquement, alors je ne sais pas ce qu'ils avaient pris comme approche tous ces artistes-là en 84, mais cette année-là, elle est quand même marquée du saut de la continuité pour certains, du retour et du début de quelque chose qui sera énorme. Je pense que 84, tu as choisi l'année la plus
c'est une bonne année, ouais.
la plus marquante.
Et puis surtout, quand on parle de Bon Jovi, de Rat, de Wasp, de Malmsteen, je pense, de même de Twisted, de Dokken, sans parler des gros dinosaures, hein, Maiden, Judas Priest, Kiss, Scorpion et autres, y a match avec tous les albums sortis cette année-là, comme quoi, si on faisait un sondage sur le meilleur album, l'album préféré des fans de chacun de ces groupes, je pense que les albums sortis en 84 seraient bien placés au final. Dokken, c'est Tous and Nell. Metallica, c'est le deuxième, The Lightning. Oui. On est sur le premier Bon Jovi, on est sur le premier Rat. Bon, peut-être pas Animal Eyes the Kiss. Personnellement, c'est pas forcément mon préféré, c'est... celui que je mettrais en avant.
Ouais,
mais voilà, enfin, il y a Dio aussi, de Last in Line, Power Slave. Enfin, c'est assez monstrueux, quoi. Et c'est vrai que c'est une année assez, assez bénie des dieux, quoi. On a la chance, mais en tout cas, j'ai la chance de l'avoir vécu en tant qu'adolescent. Et,
comme
c'était
moi.
C'était vraiment une des premières années aussi de mon goût pour de ma passion pour le hard rock.
Exactement.
Et c'était assez dément de se dire encore, 30 ans après, quoi, un peu plus même. Imaginez que tous ces albums-là, moi, je les écoute régulièrement. Et surtout, voilà, ça a passé, comme tu le dis, l'épreuve du temps avec éclat.
Oui, avec éclat. Et ce qui est étonnant aussi, c'est la qualité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il y a tous ces groupes que tu donnes, Rat, Pretty Maids, Wasp, enfin, il y en a pléthore sur cette année-là. On peut réécouter à tout moment ces albums. Je trouve qu'ils n'ont pas trop vieilli. Ils sont toujours d'actualité. Ils ont toujours un son. On parlera tout à l'heure du Pretty Maids, le Red Hot and Heavy, mais le son qui était sorti des guitares, la production était quand même déjà pour 84 quelque chose de très très fort. Et je trouve qu'il y a rien qui dénature aujourd'hui à réécouter ces albums-là. Bon, à part effectivement nos cheveux blancs et se dire qu'on a vécu ça par rapport à d'autres qui découvrent d'autres groupes. Mais c'est quand même cette année, elle est quand même incroyablement fertile en disques divers et variés.
Ouais, c'est vraiment on va dire, c'est la première, c'est comme ça quoi, que j'en parle dans mon livre, enfin, dans le premier tome, c'est le premier étage de la fusée, quoi. On est vraiment sur la mise en orbite de, on est vraiment sur une génération plutôt issue de Los Angeles et de la Californie, quoi.
Exactement.
Pour une grande partie de ce genre musical. Et voilà, que ça soit les deuxièmes albums, le Motley, Shot at the Devil est sorti, fin 83, donc on est aussi sur cette dynamique-là en 84, en septembre, je crois, donc voilà, il était déjà bien installé en début d'année. Voilà, il y a vraiment toute cette dynamique qui s'enclenche, qui va arriver jusqu'à, on va dire, l'explosion de 86 avec notamment le Steve Lee Winwright de Bon Jovi et tant d'autres. Mais c'est vraiment une année aussi très très forte,
oui,
là, par rapport à l'explosion commerciale. On casse un peu des barrières, quoi, en 86 avec une musique aussi plus grand public. Et puis voilà, puis après on connaît la suite, l'arrivée des Guns et autres. Puis voilà,
des albums de folie. Mais c'est vrai que 84,
absolument,
comme tu le résumes bien, c'est vraiment fin 83, 84, c'est la fusée, le pétard est lancé. Et effectivement, comme tu dis, le fait aussi d'avoir une plus large visibilité via MTV notamment, puisque c'est aussi l'apogée de MTV avec tous les clips
C'est la première année, c'est effectivement la première année où, alors de mémoire tout ça, parce que... Mais j'en parle, il y a un chapitre entier qui est consacré à MTV, qui est très intéressant de mon point de vue, mais aussi très important. C'est vraiment la première année, 84, où la chaîne couvre tout le territoire américain. Et surtout, effectivement, devient vraiment un vecteur de communication et promotion essentiel. Il y a un chiffre que tu donnes dans le chapitre justement consacré à la chaîne. Alors c'est plutôt 83, 84 ou 82, 83, je ne sais plus, mais on voit à peu près le nombre d'albums dans le top 20 ou top 30 américains qui ont une vidéo en fait qui passe sur MTV, et on passe d'un rapport de, je sais pas, une ou deux vidéos sur 30 à 28 en un an, quoi.
Ouais.
Donc tout, et avec justement aussi, évidemment, c'est pour ça que le genre glam, on va dire, c'est un vecteur parfait pour cette chaîne, à la fois pour la nouveauté, le côté générationnel, puis aussi pour le côté visuel, bien sûr, qui est assez, assez frappant, assez marquant, et qui va évidemment tout emmener sur son passage. Mais c'est un élément très important, effectivement, l'émergence d'MTV. C'est aussi la 84, c'est l'année aussi de Madonna. Bon, c'est pas du tout le sujet, mais voilà, c'est aussi le premier album de Madonna, qui devient aussi une star avec la cover Jean, qui est matraquée sur la chaîne, et puis après
la
radio et autres.
Exactement.
Donc c'est vraiment un tout. Mais voilà, c'était une bonne année. C'était une bonne année à vivre en général.
Exactement.
Et pour la musique hard rock en particulier.
Voilà. Et donc,
pour par rapport au groupe que je t'avais proposé, effectivement,
oui,
ce sont deux disques que j'adore, deux groupes que j'aime beaucoup. C'est pas mes préférés de tout ce qui a été évoqué, ou ce sont pas mes disques de cœur. Par contre, c'était intéressant, je trouve, alors on est quand même sur des groupes connus pour les
aficionados,
même simplement ceux qui écoutent ton émission, puisqu'il y a eu un morceau de Pretty Maids en début.
Oui.
En début d'émission.
C'est le Pretty Maids.
On est sur des groupes qui sont, absolument, on est sur des groupes connus, mais voilà, pas non plus, ils ont leur part. Pretty Maids et Autograph sont très différents les uns des autres au niveau de la carrière, mais on est vraiment sur des groupes qui ont sorti deux albums magnifiques cette année-là.
Oui.
Et qui, j'avais envie plutôt de parler d'outsider au sens large, hein, plutôt que de gros noms et de valeurs sûres et de disques vraiment éternels, quoi.
Exactement. Donc le premier groupe, Le premier groupe de ton choix, donc c'est Autograph, donc c'est le premier extrait qu'on va écouter, c'est le Turn Up the Radio, qui est un morceau incroyable de
Oui,
l'album
pour le coup,
Sign
c'est pas
In
le plus,
Please,
voilà.
qui
Pour le
était
coup, c'est le
sorti.
morceau le plus connu de.
Ouais, c'est le plus connu, il était sorti sur RCA Records, incroyable, RCA Records, on se dit, c'est les trucs improbables de chez RCA, ça, c'est bon, enfin bref.
avec une histoire assez improbable où le groupe, en fait, avait été. N'était pas signé, en fait, c'était un des groupes, voilà, un des centaines de groupes qui se baladaient sur le Sunset Strip à Los Angeles pour essayer de se remarquer et de sortir un peu du lot. Et par le plus grand des hasards, un système de démo qui se balade et tout, ça arrive dans les oreilles de David Lee Roth qui craque un peu sur le groupe et qui les prend en tournée américaine, de la tournée de 1984, quoi, de l'album ouais. 1984. Et donc ils se sont retrouvés. Alors je sais qu'il y a une anecdote fameuse parce que c'est quand même un groupe. Voilà, c'est quand même pas rien, quoi, d'être un groupe qui n'est pas
connu,
encore
donc.
Signé.
Ouais.
Ça sera fait rapidement, évidemment, dans la foulée, mais qui jouera au Madison Square Garden, quoi, quand même. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Et donc effectivement, RCA va les récupérer pour sortir. Alors c'est la fin d'année 84, donc on est effectivement sur un succès. C'est aussi un morceau Turn Up the Radio qui est assez génial, bien sûr, mais qui est vraiment un des morceaux symboles pour moi de cette première génération et de cette époque, en tout cas. D'art un peu festif et mélodique, chantonnant, très positif, quoi, dans les paroles, quelque chose de très simple et puis en même temps, voilà, un peu assez irrésistible.
Exactement. Un riff accrocheur,
c'est vraiment...
des paroles accrocheurs. C'est
absolument,
le terme.
Oui, oui.
C'est le terme.
Et puis voilà, c'est un groupe qui a eu du succès. Alors, le disque a été, je crois pas qu'il a été platine, mais il a été disque d'or, donc c'était pas rien à l'époque.
Exactement.
Quelques années plus tard,
plus
ça sera un petit
oui.
succès. Voilà.
Ouais, exactement.
Et puis, voilà, les deux autres albums qui vont sortir assez rapidement, je crois, en 2 ans ou 3 ans, auront à chaque fois un peu moins de succès. Le groupe va splitter en fin des années 80 pour revenir après en différentes formules, comme beaucoup de groupes. Mais voilà, il reste vraiment ce disque, le premier surtout, même si les deux autres sont, on va dire, identiques, hein, il n'y a pas de mauvaise surprise. Et puis, ce morceau, même si tout le disque est assez, assez emballant, une production de Neil Kiernan, je crois, de mémoire.
Oui, exactement.
On verra après avec Queensrÿche, surtout, et Duncan encore.
Exactement.
Donc voilà, puis le morceau, c'est vrai que, autant Pretty Maids, j'ai pris un morceau peut-être un peu moins connu de Red Hot Navy, autant là,
oui.
Photographe.
Et ben écoute, on va écouter
pas
tout de
surprise,
suite.
Mais je pense que c'est toujours bien, voilà, c'est toujours bien d'écouter un morceau pareil.
On va l'écouter tout de suite, et surtout, on va écouter la voix de Steve Plunkett, parce que c'est quand même aussi un chanteur. Il amène beaucoup de choses sur ce morceau, donc bah c'est parti, on écoute tout de suite donc le premier choix de Bruno qui est le Turn Up the Radio d'Autograph. We'll be right back. Voilà, c'était le deuxième choix de notre Bruno. Franchement, cet album, voilà, j'ai pas de mots. C'est un magnifique, magnifique album. On va continuer tout de suite avec Cloven Oath, extrait de du dernier album, Touch of the Rainbow. On écoute tout de suite Cloven Oath avec Doc Olivier sur Last Ride. Voilà, c'était Klavenhof, Touch the Rainbow, extrait du Age of Steel. Ouais. On écoute tout de suite, et pour finir l'émission, un extrait du Made in Japan, extrait du nouveau live de Pretty Maids. On écoute les morceaux Rodeo. Voilà, on termine l'émission avec Pretty Maids, le morceau Rodeo. C'était un très grand plaisir d'avoir Bruno, j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve, nous, de toute façon, demain, dimanche, 18h, avec Jean-Michel Attia de Grumpy Mood. On écoutera plein de bonnes choses, on a prévu des trucs très sympas, vous allez voir. Voilà, et on continue et on termine avec le Pretty Maids Made in Japan, le clin d'œil à Deep Purple avec le morceau Rodeo. Écoutez Last Ride avec Doc Olivier. Voilà, c'était Last Ride, Pretty Maids, Rodeo, live, extrait du Made in Japan. Franchement, un super album. Mettez une oreille dessus, c'est hyper bien fait. Et ça fait très plaisir d'écouter tous ces morceaux. Pour ma part, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que les morceaux vont bien rester en tête, l'autographe et le Pretty Maids. Et on se retrouve demain. Bonne soirée à tous, sur les antennes de Vinyl Time. Et rendez-vous demain, 18h, dans Last Ride. Thanks a lot.